Grande Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour. Accaparement des terres, cours d'eau détournés pour alimenter des centrales électriques au détriment de la population locale, les relations de l'homme et de la nature sont difficiles, encore plus quand le réchauffement climatique s'en mêle. L'accaparement des terres, c'est l'acquisition controversée de grandes superficies de terres agricoles par des entreprises et des gouvernements. Un phénomène qui progresse dans l'est de l'Allemagne. Ces régions peu peuplées, aux immenses exploitations agricoles héritées de l'ancien régime communiste, sont particulièrement menacées par cette course à la terre. Dans la région du Brandebourg, il fallait débourser il y a 10 ans 12 000 euros pour un hectare de terre cultivable. C'est 5 fois plus cher aujourd'hui. Pour les jeunes, difficile dans ces conditions de s'installer, mais non loin de la frontière polonaise, Julien Méchaussy est allé à la rencontre d'Ania Radetzky. C'est une jeune paysanne qui se bat pour rester libre.
Nous roulons sur un pâturage que les vaches ont quitté il y a déjà quelques temps. L'herbe a bien poussé depuis et nous voulons bientôt faire les foins. Il faut donc que j'enlève les clôtures. Nous sommes dans le parc naturel de la vallée de l'Oder, à la frontière polonaise. En tout, nous exploitons 220 hectares. Ce pâturage en fait 8. C'est ce que nous avons le plus proche du village. Les autres terres sont disséminées dans un rayon de 30 km. Nous sommes tout le temps sur la route, en 4x4 ou en tracteur. Nous prenons ce qu'il reste.
Ania et son mari, Janusz, jeune trentenaire, ont réalisé leur rêve. Sans capital de départ ni terre, ils se sont lancés il y a 5 ans et gèrent aujourd'hui leur propre exploitation en toute indépendance. Une exploitation labellisée Déméter, l'une des certifications biologiques les plus contraignantes au monde, presque une anomalie dans une région où exploiter 220 hectares peut paraître bien peu.
Plus au nord, nous avons d'autres pâturages. Notre voisin direct là-bas possède 15 000 hectares qui s'étendent de la Thuringe, dans le sud-est de l'Espagne, jusqu'en Lituanie. Quand nous nous sommes installés, nous l'avons rencontré et ça m'a fait penser à un livre pour enfants très connu ici, où de méchants monsieur volent le temps des autres et contrôlent tout. Ces gens ont d'autres valeurs que les nôtres.
Pour pouvoir travailler des terres cultivables, Ania et Janusz ont donc dû faire preuve d'imagination. Le mari d'Ania a par exemple convaincu la direction du parc naturel de lui louer des terres pour les mettre en valeur. Ils ont également profité de l'initiative Ökonauten, une coopérative qui achète et loue des terres à de jeunes agriculteurs. En retour, ces derniers s'engagent à pratiquer une agriculture biologique et à fournir la coopérative en produits agricoles à des prix justes pour tous.
En rachetant des terres, ils les libèrent et les mettent à disposition de petits paysans. Mais leurs moyens restent limités. Si nous en avons aussi profité, il a fallu nous battre par nos propres moyens pour trouver des terres à exploiter. Il est très important de faire connaître ces coopératives, leur travail au quotidien pour changer les choses et aider les petits exploitants. Même si ce n'est qu'une petite goutte d'eau, cela donne de l'espoir. Cela nous encourage à continuer. Prenez certaines exploitations juste à côté d'ici. Quand vous avez plus de 800 vaches laitières, vous avez besoin d'énormément de terre. La plupart du temps, ces exploitations appartiennent à de grandes entreprises. Et ce sont elles qui accaparent les terres. Elles ne cherchent pas à s'intégrer à la population locale, à développer la région. Elles investissent pour avoir le plus de rendement possible, le plus rapidement. À leurs yeux, la terre est juste un placement financier comme un autre.
Avec une quarantaine de vaches laitières, mais aussi deux petits garçons en bas âge, les journées de travail d'Ania dépassent bien souvent les 15 heures. Pendant que Janusz est parti à la recherche de leurs vaches dans le parc naturel, Ania délaisse le 4x4 pour la voiture familiale. C'est déjà l'heure d'aller chercher les enfants à la garderie.
C'est la même question pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie ? Je pourrais travailler pour une grande exploitation, profiter d'horaires de travail fixes, toucher un bon salaire à un poste à responsabilité. Ça changerait de maintenant, où nous avons du mal à arriver au salaire minimum. Les 5 premières années, nous n'avons même pas réussi à nous verser un salaire. Mais c'est le prix à payer. Je veux être libre, je veux être une paysanne libre.
Une liberté qui se paye cher, mais aux yeux d'Anya, le seul chemin pour lutter contre l'accaparement des terres.
Près de 3000 centrales hydroélectriques sont en projet ou en cours de production dans les Balkans. Cette ruée vers l'or bleu touche surtout les petites rivières et n'épargne pas les zones protégées. C'est le cas dans le sud du Kosovo, sur la Lepenac et ses affluents. Dans un pays encore profondément divisé par le conflit d'il y a 20 ans, Serbes et Albanais s'unissent pour défendre ensemble leurs conditions de vie le long des rivières. Louis Seyé.
Vous voyez, maintenant, ils sont en train de mettre les tuyaux en plastique, certainement, c'est pour l'eau. Il n'y a aucun panneau. Depuis qu'ils ont commencé, ils ont montré certains papiers qui ne sont pas tout à fait en règle. C'est déjà plusieurs années, cette autorisation qu'ils ont fait. Ils ont fait l'autorisation à la voguette, comme ça, dans un café à Kachanik.
Dragoljub est désespéré. Depuis quelques mois, ce retraité serbe qui a travaillé en France dans les années 70 voit tous les jours les bulldozers entamer le lit des cours d'eau de sa vallée. À quelques mètres de sa maison, la belle rivière qui coule depuis le sommet des montagnes est complètement ravagée.
Ici, avant, derrière ma maison, on a fait une espèce de petit barrage, là, et puis on se baignait dedans, là, et on pouvait boire tranquillement cette eau et tout ça. Depuis, adieu, on ne peut rien faire. C'est dégueulasse, l'eau, elle est dégueulasse. Même là-haut, qui c'est zone interdite, c'est-à-dire parc national, ils ont fait des barrages là-haut. Ils ont fait du barrage, ils ont mis l'eau dans le tuyau.
Autour du chantier, aucun panneau ni autorisation n'est affiché et les ouvriers ne portent ni casque ni uniforme. Les centrales qui se construisent sur la vallée de la Lepenac provoquent une vive opposition des habitants. Ils dénoncent le manque de transparence et la corruption qui entoure ces projets. La région est l'une des rares du Kosovo où Serbes et Albanais vivent encore ensemble, 20 ans après la guerre qui les a divisés. Depuis plusieurs années, Dragoljub se mobilise régulièrement avec ses voisins albanais, comme Agron.
Moi, je viens de Bitinia et lui de Brezovica. Bien sûr, je connaissais Dragoljub de vue, mais le plus souvent, c'est la rivière qui nous réunit. Nous, à Bitinia, on ne va pas seulement protester entre Albanais, on y va aussi avec les Serbes, parce qu'on doit défendre l'intérêt de tout le monde, parce que s'il n'y a plus d'eau, il n'y aura plus personne.
Agrand cultive quelques hectares de framboises, mais aussi des céréales. Dans un pays où les ressources sont limitées, la plupart des habitants de la Lepenac dépendent de l'eau des rivières. Malgré les pressions et les menaces des investisseurs locaux, les habitants continuent de manifester chaque mois contre les centrales.
Pour nous, l'eau, c'est la vie. Et pour le profit de deux ou trois personnes qui vont gagner des millions, on va sacrifier toute une communauté, parce qu'après, il n'y aura plus de vie. Dans notre village, 100% des gens vivent en produisant des céréales, des légumineuses, de l'aneth. Tout ce qu'on produit dans les champs ici, c'est grâce à la rivière Lepenac. Si ça change, il n'y aura plus de vie.
En aval des premières centrales terminées, la Lepenac est déjà quasiment à sec et c'est pourtant la saison de la fonte des neiges. Fabien Téchéné travaille pour WWF Adria sur la question des centrales hydroélectriques. Il vient souvent à la rencontre des populations qui s'opposent à ces barrages. Malgré les difficultés, les différentes communautés d'ex-Yougoslavie arrivent à dépasser les divisions liées au conflit des années 90.
On voit des situations similaires en Bosnie, en fait. Ou même s'il y a des tensions ethniques, qu'on soit albanais, serbe, croate, etc., l'impact il est le même. Donc à partir de ce moment-là, on voit les gens qui se réunissent autour de ce problème-là.
Près de 3000 centrales hydroélectriques sont en projet ou en cours de construction dans les Balkans. Des projets qui ne répondent souvent pas aux réels besoins énergétiques, car l'électricité produite est vendue sur les marchés internationaux et utilisée en majorité par les industries. Sur le long terme, ces constructions posent de réels problèmes pour l'environnement comme pour les populations locales. Le Kosovo est par exemple le seul pays d'Europe à être en situation de stress hydrique. Selon Fabien Téchéné, les centrales construites sur la Lepenac vont aggraver le problème.
Si dans ces conditions-là, on rajoute des centrales hydroélectriques qui sur 5, 6, 10 km vont assécher des rivières, on se retrouve avec un pays qui n'a plus vraiment de tronçons de rivières de bonne qualité, avec une quantité d'eau suffisante.
Dans un contexte tendu, les Serbes et les Albanais de la Lepenac arrivent à rester unis pour défendre leurs conditions de vie. Mais leur combat paraît bien déséquilibré. Derrière les investisseurs locaux et grâce à des montages financiers complexes, se cachent souvent de plus grandes compagnies basées dans les capitales de l'Union européenne. L'ONG WWF Adria réfléchit à porter l'affaire devant les tribunaux. Blade.
La crise sanitaire du coronavirus pourrait porter un coup dur à la défense de l'environnement. Les décideurs pourraient être tentés de sacrifier la lutte contre le réchauffement climatique sur l'autel de la reprise économique. Et pourtant, en Suisse, le Parlement a fait le choix inverse, en adoptant, juste après la levée du confinement, un paquet de mesures destinées à réduire les émissions de CO2. Les explications de Jérémy Lanche.
Taxer les carburants pour financer la transition énergétique, beaucoup de gouvernements y ont songé, beaucoup s'y sont cassés les dents. En Suisse, la nouvelle loi devrait augmenter le prix de l'essence de 10 centimes par litre jusqu'en 2024, 12 centimes à partir de 2025. Quant au billet d'avion, un supplément de 30 à 120 francs, soit 28 à 112 euros, sera prélevé sur chaque billet. L'objectif est le même, changer les comportements des Suisses. À la pompe, les automobilistes risquent pourtant de grincer des dents, mais la Suisse n'est pas la France, estime une députée verte. Ici, on prend plus facilement le train que la voiture pour se rendre au travail. Et ce, d'autant plus que le réseau ferré suisse est l'un des plus développés d'Europe. Pour la présidente de la Confédération également, ces taxes sont socialement acceptables puisqu'elles serviront à financer un fonds climat qui pourra par exemple aider les ménages les plus modestes à remplacer leur chauffage à mazout par un autre plus vertueux. Reste un obstacle pour la loi. La droite nationaliste qui s'oppose au texte menace de faire voter le peuple l'an prochain dans un référendum à l'issue plus qu'incertaine si la crise économique devait perdurer. When the sun goes down over Dublin town, the colors last for hours, oh. The lights come on, the night's a song, and the streets all turn to gold. A gentle mist called heaven's kiss, like teardrops off an angel's wing. Don't you know you'll cleanse your soul with a walk in the Irish rain?
Avec ce grand soleil, ces températures estivales, l'Irlande a connu le printemps le plus sec depuis le début des relevés météo. C'est un épisode tellement inédit que les autorités Emeline Vin ont mis en place des restrictions de la consommation d'eau.
Jusqu'au 21 juillet, au moins, interdiction d'arroser son jardin ou tuyau, de remplir une pataugeoire ou de laver sa voiture à grandes eaux. Les nappes phréatiques sont basses, 10% des centres de traitement sont même en situation de sécheresse ou à risque de le devenir. L'Irlande n'avait pas connu de si faible niveau de pluie depuis au moins 1850 et le début des relevés météorologiques, et l'été s'annonce tout aussi radieux. Peu de réserves et une consommation qui a augmenté. Pendant le confinement, qui a débuté mi-mars ici, les Irlandais se sont davantage lavé les mains, c'est vrai. Mais surtout, ils ont fait le ménage de printemps dans les maisons. On en profitait pour bien nettoyer la voiture, refaire une beauté au jardin. Il y a aussi l'infrastructure. 4 litres sur 10 se perdent dans le réseau à cause des fuites. Dans la région de Dublin, par exemple, certains tuyaux n'ont pas été changés depuis l'époque victorienne.
Alors d'accord, il y a plusieurs facteurs qui expliquent la pénurie. Mais le réchauffement climatique joue un rôle aussi, Emeline.
Il est forcément un peu tôt pour établir clairement un lien. C'est vrai que les épisodes de sécheresse en Irlande, plutôt connus pour sa généreuse pluviométrie, se rapprochent les uns des autres. Le dernier, c'était en 2018. À l'époque, les restrictions de consommation avaient duré de juillet à septembre. Irish Waters, le principal fournisseur d'eau du pays, a d'ores et déjà indiqué que cette sécheresse avait dépassé les niveaux de 2018. Et il n'y a pas que les étés qui deviennent plus chauds, les hivers deviennent aussi moins doux. Il y a 2 ans, une tempête de neige avait paralysé le pays pendant plusieurs jours, et c'est rare ici. Cet automne 2019 a battu des records. Ce n'est pas une blague, Juliette, il n'avait jamais autant plu qu'en novembre dernier.
C'est la chanson que l'on entend quand le printemps sourit dans le pays d'Alsace aux 1000 villages fleuris. Chanson joyeuse qui renaît au cœur des amoureux quand les cigognes familières tournoient dans les cieux.
On prend la direction de l'Alsace dans l'est de la France, symbole de la région, les cigognes. Dans les années 70, elles avaient presque complètement disparu. Elles sont aujourd'hui près de 1000 couples à passer le printemps dans la région. La politique de réintroduction de cet échassier est un succès. C'est un reportage à Münster de Robin Dussel.
Dans la petite ville de 5000 habitants, on dénombre en effet plus de 60 couples d'échassiers, un symbole fort du patrimoine alsacien pour le maire Pierre Dichinger, même si cela nécessite un peu d'entretien.
Pour nous, pour la ville de Münster, nous avons sur les bâtiments publics 20 à 25 nids qui sont installés tous les ans. Donc ils sont en place pour certains avec des paniers pour accueillir les nids, et puis autrement, de façon sauvage, les cigognes s'installent sur des coins de toiture et des choses comme ça. Donc tous les mois de février, nous avons une entreprise ferblantier du coin qui vient avec une nacelle spéciale pour arriver sur ces grandes hauteurs, pour les démonter en partie, puisqu'on ne les démonte jamais entièrement.
En France, la cigogne blanche est une espèce protégée. De l'arrivée des oiseaux à la fin de l'hiver jusqu'à leur départ vers le sud de l'Europe ou le Maghreb à la fin de l'été, il est donc interdit de déplacer les nids. Principale contrainte, leur taille et leur poids. Un nid peut mesurer jusqu'à 1 mètre de diamètre sur 1 mètre de hauteur et peser plus de 500 kg.
Tous les ans, quand on fait le contrôle si la stabilité est correcte et si on peut laisser les cigognes à cet endroit-là. On met aussi des petites protections pour qu'elles ne s'installent pas à des endroits plus fragiles. Il faut quand même rappeler qu'il y a une vingtaine d'années, il y a un nid qui est tombé à Turckheim sur une terrasse de café, heureusement à une heure où personne n'était sur cette terrasse. Donc c'est quand même quelque chose qui peut arriver. Et dans ce cas-là, c'est plusieurs centaines de kilos qui tombent, puisque c'est rarement les nids les plus légers qui tombent, c'est souvent ceux qui sont les plus lourds.
La sécurisation et l'entretien des nids a un coût, c'est certain.
Le panneau indique, et c'est très important, ne pas stationner sous le nid, chute de branches possible.
Mais la présence des oiseaux reste un véritable atout, notamment touristique. Depuis 2009, Münster a été labellisé « Village cigogne d'Alsace ». Johnny Royer est chargé de communication à l'Office de tourisme.
Ce village cigogne d'Alsace est un label qui est important pour nous parce qu'on a eu une vraie politique de réintroduction des cigognes sur la ville et la vallée de Münster. Et c'est quelque chose qui nous ancre complètement dans l'identité, dans le terroir alsacien. Si vous voulez, on va aller les voir. Juste en parcourant quelques rues en ville, on va voir énormément de nids et on va voir les couples qui sont tous les ans chez nous.
Parmi la colonie présente à Münster, 8 volatiles ont décidé de s'y installer toute l'année. Des cigognes devenues sédentaires suite à la politique de réintroduction et de reproduction de l'espèce enclenchée ces 30 dernières années.
La Précial, qui était l'association de protection et de réintroduction de la cigogne d'Alsace, a mené une politique efficace, dont à Münster nous avions un bel exemple avec l'ancien enclos à cigognes, qui, au vu de la population actuelle, a été arrêté et reconverti en poulailler communautaire.
Ce sont les Suisses et les Allemands qui ont imaginé un renforcement des populations en gardant en captivité des adultes qui faisaient reproduire.
Yves Muller, le président de la Ligue de protection des oiseaux en Alsace.
Ces adultes ensuite pouvaient être relâchés. S'ils étaient gardés 3 années en captivité, ils perdaient l'instinct migratoire. Par contre, les jeunes conservaient cet instinct migratoire et continuaient à migrer.
Avec ce procédé, les bénévoles de l'association ont pu renforcer rapidement la population. En 1974, il ne restait plus que 9 couples de cigognes contre 79 en 1990 et 255 en 2000. De quoi préserver l'espèce et lui éviter des dangers certains lors de son voyage migratoire.
À la fin des années 1960, début des années 1970, la principale cause de régression était la destruction de l'espèce dans les zones d'hivernage en Afrique. C'était l'époque où il y avait beaucoup de troubles en Afrique et les gens s'amusaient à tirer les cigognes, soit comme un plaisir un peu imbécile, ou alors pour s'en nourrir.
Après 33 ans d'activité, mission accomplie pour l'Apprécial qui a voté sa dissolution en 2016. La cigogne blanche n'est désormais plus considérée comme une espèce menacée. On compte aujourd'hui en Alsace près de 900 couples nicheurs.
Accent d'Europe, une émission réalisée aujourd'hui avec le soutien de la Direction Agriculture et Développement Rural de la Commission de l'Union Européenne, à la réalisation Françoise Grelot. Vous pouvez vous abonner au podcast d'Accent d'Europe sur votre plateforme de distribution préférée. À bientôt !